Nous sommes heureux de vous retrouver comme chaque dimanche pour parler de l'assistance et de l'entraide. Et c'est à travers votre émission humanitaire Faboudirène pour boucler les riches programmes du week-end de Studio Tamani. Les titres.
Les annonces de disparition d'enfants deviennent récurrentes, notamment sur les réseaux sociaux et via des médias traditionnels. Ces phénomènes inquiétants est notre sujet du jour.
Et pour en parler, nous sommes avec le sociologue Amo Guindo qui nous donnera des précisions sur plusieurs aspects. La prise en charge des enfants par leurs parents hier et aujourd'hui, comment avoir un œil sur ces enfants, entre autres.
La rubrique artiste de la semaine nous amène à Kita à la rencontre de Django Diabaté.
Ce sommaire vous sera détaillé par le duo Lala Diarra Touré et Dramat Maiga. La technique est assurée par Adjaratou Traoré. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Draman, bonsoir.
Bonsoir Lala, comment ça va?
Je vais bien, et toi?
Le week-end ça a été? Moi je vais bien aussi. Hein.
Ah oui, assez mouvementé, mais ça va.
Tu t'es coiffé récemment?
Ouais, on s'est amusé, on s'est un peu reposé. Et on est d'attaque pour commencer la nouvelle semaine.
Ah, c'est parfait, parce que tu as préparé à attaquer la nouvelle semaine avec de l'énergie, avec de l'enthousiasme.
Ouais, de l'énergie à revendre.
J'en veux, hein? J'en veux, volontiers.
D'accord, mais volontiers. Ça coûte cher. Alors, comme on a annoncé dans le sommaire, de plus en plus, nous tombons sur des annonces d'enfants disparus. Ces appels à l'aide sont souvent faits sur les réseaux sociaux et via d'autres canaux de communication et d'information Draman.
Un phénomène qui prend de l'ampleur et plonge des parents dans un profond désarroi.
Alors, Khalifa Goïta s'est intéressé au sujet et c'est à travers notre magazine du jour. On l'écoute.
Fatmata Nadjo est mère de famille. Elle vit au logement social de Tabakoro dans la capitale. Son fils Abba Fadiga, âgé de 10 ans, est porté disparu depuis le vendredi 18 octobre 2024. Elle revient sur les circonstances de la disparition de son enfant autiste.
Le matin de bonne heure, quand il s'est levé, il a voulu manger. Et je lui ai demandé d'attendre un peu le temps de chauffer le repas. Et comme il n'a pas voulu, je lui ai remis un peu de goûter ça. Avant qu'il nous reste, sauf quand il était en train de manger ça entre-temps, j'ai voulu donner le reste là, je ne l'ai plus vu. On a été à la brigade pour la déclaration et les pouponnières à la police, au chef des villages de Tabakoro ainsi des Farako qui sont à côté de nous.
Madame Fadiga Fatmata Nadjo vit cette situation avec beaucoup de peine.
Vraiment triste. Le fait qu'on n'a même pas ces nouvelles, et moi j'ai estomac. Maintenant la palpitation même me fatigue. Parfois je passe toute la journée sur le lit. Mais que faire? On ne fait que prier. Que Dieu lui protège.
Pourquoi assistons à la multiplication des cas de disparition des enfants ces derniers temps? Difficile de répondre à cette question avec exactitude. Mais des parents donnent leur avis. Ces réactions sont recueillies à Bamako et Kadjolo.
Il y a trop de disparitions d'enfants à Bamako de nos jours. De telles situations sont dures à vivre, car tu ne peux pas avoir l'esprit tranquille.
Il y a des parents qui ne gardent déjà plus un œil sur l'enfant à l'âge de 2 ou 3 ans. Une autre cause qui provoque la disparition, c'est lorsque l'enfant se sent à l'aise au dehors qu'à la maison.
La grande faute incombe à nous les femmes au foyer. Les hommes ne passent pas la journée à la maison. Les femmes doivent veiller sur les enfants à tout moment. Certaines femmes ne font pas ça. Dernièrement, la bonne d'une de mes nièces a disparu. Elle a 12 ans. On n'a aucune nouvelle d'elle. Une situation qui a provoqué une mésentente entre ma nièce et son époux.
Par chance et après les échos, certains parents retrouvent leur progéniture. C'est le cas d'Ibrahim Zaka Maïga.
À l'heure habituelle vraiment de rentrer à la maison, la fille n'était pas venue, mais le grand frère, oui. Les inquiétudes ont commencé. Moi, je travaille à l'intérieur. Quand la maman a informé, elle avait peur. C'est vers les coups de 16 heures qu'elle m'a informé. Moi, j'étais inquiet. On s'est mis vraiment à partager l'information entre nous, partager l'info sur les réseaux sociaux, sur les radios. Dieu faisant, ça dit la chose. Il y avait une mosquée qui était non loin de la famille. C'est dans cette rue, il y a une femme qui a vu la fille en train de se promener, mais elle a su que la fille était inquiète. C'est cette femme qui l'a récupérée.
Autrefois, les enfants disparus étaient dans la plupart ramenés chez le chef du village ou dans les lieux stratégiques, ce qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Cependant, grâce à l'évolution de la technologie, des organes de presse accueillent aussi ces personnes portées disparues afin de retrouver leurs parents ou proches. C'est le cas du groupe Renouveau depuis quelques années. Marc Dao administrateur général du groupe, estime que cela relève de leur responsabilité sociétale d'entreprise.
Nous avons mis un dispositif qui consiste à déclarer l'enfant perdu donc sur l'ensemble de nos supports-là, au point que lorsque nous nous impliquons dans le véhicule de l'information au sujet d'un enfant, ça se passe très bien. Et à l'interne, il y a des agents qui assurent la permanence la nuit. Lorsque un enfant perdu est conduit à notre niveau, on passe aussitôt l'information. Et lorsque ça dépasse des heures et qu'on entame la soirée, sans pourtant que les parents de l'enfant en question ne se déclarent, on le confie à la permanence, on assure le repas à l'enfant. Tout cela, nous le faisons gratuitement parce que nous pensons que nous avons également le devoir moral de pouvoir assurer ce travail à caractère social. Nous ne prenons même pas un franc.
Markatié Dao est conscient que l'avenir d'un pays est la jeune génération. C'est pourquoi il précise que la sécurité des enfants ne doit pas être négligée.
Même si en certains moments c'est plus fréquent que d'autres, les enfants sont souvent nombreux en circulation quand on est en vacances. Avec la rentrée, généralement ces cas de perte-là ne sont pas assez fréquents. Mais il se passe rarement un mois sans qu'on ait en tout cas reçu un enfant déclaré perdu ou sans qu'on ne reçoive une déclaration de recherche d'enfant. Nous constatons de plus en plus que tout cela est dû un peu aux préoccupations des parents, surtout les mamans. Nous lançons un appel pour qu'ils veillent scrupuleusement au mouvement de leurs enfants parce que nous sommes en ville et puis par moments il y a des intempéries donc qui deviennent des dangers, des menaces pour les enfants.
Pour venir à bout de ce phénomène, le sociologue Ida Dial pense que la fraternité doit être toujours de mise.
C'est pas surprenant. Au moment où chacun veut maintenant s'isoler avec ses enfants et sa femme, pour lutter contre cela, il faudrait vraiment qu'on revienne à nos coutumes ancestrales. Par exemple, l'enfant dans un quartier était l'enfant de tout le monde. Et aujourd'hui, dans les quartiers, personne n'ose approcher l'enfant de l'autre pour lui mettre sur les rails ou bien pour lui corriger ou bien même pour lui parler avec un nez rouge. Vous imaginez comment des gens qui sont dans les mêmes quartiers, qui sont des voisins, et tu retrouves mon enfant avec un monsieur ou avec une dame qui amène mon enfant et tu n'es même pas en mesure de savoir s'il est mon proche et il disparaît avec mon enfant.
En attendant, ce qui ne fait pas l'ombre d'aucun doute relève du fait que le phénomène devient inquiétant. En plus de la disparition des enfants, leur kidnapping est aussi un autre défi auquel fait face la société.
Merci à Khalifa Goïta et à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce magazine. Draman, c'est dur d'être parent souvent, vaquer à ses occupations et faire attention aux enfants, c'est souvent une équation difficile à résoudre.
Exactement, Lala. Et une fois que sa progéniture est portée disparue, on ne sait plus quoi faire. Nous avons entendu des parents dans le reportage.
Le témoignage de Fatoumata Nadio, surtout, qui n'a plus revu son enfant depuis un peu plus de 2 semaines, est vraiment touchant. Surtout, nous les mamans, c'est vraiment dur.
Ah, c'est dur pour nous aussi, les papas. Hein. Nous souhaitons qu'elle retrouve son enfant sain et sauf, que tous les parents qui sont dans de telles situations aient la même chance que M. Ibrahim Zaka Meiga, cet homme qui, grâce aux bonnes volontés, a revu les sourires de son enfant.
Et Draman, qui de mieux placé qu'un sociologue pour parler de ce phénomène préoccupant dans la société? Et comme annoncé, notre invité est le sociologue Amagindo.
Bonsoir.
Alors déjà, quelles sont vos premières réactions face au reportage que nous venons d'écouter?
S'agissant de la disparition des enfants ici dans notre société, le phénomène est récurrent. De temps en temps, donc nous assistons à ce phénomène-là.
Alors, dans ce reportage, qu'est-ce qui vous a vraiment attiré l'attention?
C'est triste quand même de voir perdre un enfant sans aucune nouvelle. Comment il est parti? Dans quelles mains? Et il est dans quelles conditions? Et comment le retrouver? Vous savez, nous sommes dans une société qui est en pleine évolution. Il faut vraiment revoir notre mode de réorganisation sociale. La femme qui vient d'intervenir, l'enfant est porté disparu. Maintenant, quelles sont ses préoccupations? Comment mettre cette femme à l'aise pour qu'elle soit comme les autres? Le phénomène, vraiment, c'est inquiétant et ça a vraiment à revoir à un niveau élevé.
Alors, qu'est-ce qui explique la récurrence de ce phénomène dans notre société actuellement?
Voilà, donc, il peut y avoir plusieurs raisons. D'abord, la plupart de ces phénomènes se manifestent ou se produisent dans les centres-villes. Alors, quand le volume augmente, il faut vraiment que l'intensité aussi augmente.
Vous parlez de la démographie?
La démographie également. Nous sommes 3 ici. Alors, si nous causons maintenant à merveille, si nous étions 10, est-ce que c'est le même volume? C'est pas ça. Le phénomène, c'est récurrent, souvent lors des événements annuels, comme la fête, les fêtes de Tabaski, les fêtes de Ramadan, ou bien dans les lieux de rencontres au parc, etc. Même souvent même au marché. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent s'expliquer. Donc, il n'est pas facile quand même de dire à un tel niveau que c'est tel phénomène qui explique cela. Donc, souvent, il y a des disparitions naturelles, comme pendant l'hivernance, les catastrophes naturelles, les vents, les climats. Certains enfants peuvent sortir en se séparant de ses voisins, il est perdu. Par contre, d'autres dégâts peuvent être causés par l'homme même. Souvent, il y a des hommes qui kidnappent les enfants.
Oui, mais Monsieur Guindo, est-ce que aussi la disparition des grandes familles, des familles traditionnelles, comme on a l'habitude de les dire, n'est pas également un facteur de ce phénomène-là?
Quand on veut expliquer ce phénomène, il faut quand même avoir une idée globale. Chaque société se repose sur ses valeurs, ses normes ancestrales, quel qu'en soit le mode d'évolution. Chacun se concentre sur l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. Vous voyez, à l'époque, quand la famille traditionnelle est là, quand il y a un enfant ou des enfants qui sont au sein de la famille, la responsabilité est assurée par tous les membres de la famille, quel qu'en soit ton niveau de vie, quelle qu'en soit ta catégorie sociale ou catégorie professionnelle. Donc si l'enfant est en danger ou bien si l'enfant ne fait pas les choses comme il le faut, donc chacun est mieux placé pour vraiment pouvoir le mettre dans le cadre social. Mais par contre, maintenant nous voyons, on peut être dans une même concession et sans même se parler. Si la société voit de cette sorte, il peut y avoir quand même de ces anomalies sociales.
C'est bien compris. Merci beaucoup à M. Guindo pour ces premières précisions. Et vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Mais en attendant, nous allons faire place à notre rubrique Sketch.
Zabiatou rend visite à Hammadi et la bonne dame est porteuse de conseils aujourd'hui Dramon.
C'est vrai Lala, car elle a plusieurs astuces qu'elle applique pour occuper et surveiller ses enfants. Suivant.
Bonjour Hammadi, comment vas-tu aujourd'hui?
Toi-même tu ne vois pas, les gosses crient partout, courent partout, pas moyen d'avoir un peu de tranquillité quoi.
Oh Hammadi, tu veux quoi? Ils sont en vacances, c'est normal qu'ils s'amusent. La bonne nouvelle, Hammadi, ils ont une personne qui veille sur eux pendant qu'ils jouent.
Ça, c'est bien ça. Moi, je ne suis pas là pour les surveiller. D'ailleurs, pourquoi voudrais-tu qu'on les surveille?
Pourquoi? En plus, la sécurité des enfants, c'est très important. Surtout pendant les vacances où ils ne sont pas encadrés par l'école. Sache qu'il y a des risques auxquels ils peuvent être exposés. Par exemple, ils pourraient se perdre ou se blesser ou pire, être approché par des personnes mal intentionnées pour être victime d'agressions sexuelles ou d'enlèvements.
Toi aussi, tu exagères comme d'habitude. Ils savent bien se débrouiller tout seuls. Ce sont des gamins, c'est vrai. Mais ils savent courir et crier s'il y a un problème.
Encore, faut-il qu'ils arrivent à savoir qu'ils sont face à un danger et qu'ils doivent courir? Hammadi, c'est notre responsabilité de nous assurer qu'ils sont en sécurité. Par exemple, on pourrait organiser des jeux dans des zones sûres où on peut les surveiller de près.
Et puis quoi encore? On va leur mettre des garde-corps maintenant?
Non, Hammadi, non. On peut organiser des activités éducatives et amusantes qui les gardent occupés et en sécurité à la fois. On pourrait aussi leur enseigner à reconnaître le danger et à savoir quoi faire en cas de problème.
Donc tu veux dire comment leur apprendre à éviter les étrangers et à rester en groupe?
Exactement. Et aussi leur montrer les endroits où ils peuvent aller jouer en toute sécurité. On pourrait créer un point de rassemblement où ils peuvent se rendre s'ils se sentent en danger ou s'ils se perdent. Hammadi, on peut aussi demander l'aide des organisations humanitaires présentes ici pour organiser des sessions de sensibilisation à l'endroit des enfants.
Oui, pourquoi pas? Allez, on essaie. Mais c'est bien parce que c'est toi, Zabiatou. C'est vrai aussi que je n'ai pas envie d'en rajouter à mes problèmes si mes enfants venaient à être gravement blessés ou à être abusés par une personne mal intentionnée pendant ces vacances-là. Vraiment, je ne veux pas en prendre trop sur moi.
Voilà, merci Hammadi. Ensemble, on peut y arriver. Je savais que tu comprendrais. Hammadi, avec un peu de bonne volonté, on peut vraiment faire la différence. Et puis, qui sait, ça pourrait même nous apporter un peu de tranquillité.
Bon, j'ai compris Zabiatou. Continue ton chemin, car j'ai des enfants à surveiller moi pendant qu'ils jouent.
Ok, bon courage Hammadi.
C'était là Zabiatou et Hammadi dans le sketch de cette semaine qui portait sur comment surveiller les enfants, surtout pendant les vacances scolaires. Alors, Monsieur Guindo, que vous inspire ce sketch déjà?
C'est une sensibilisation à l'endroit des parents. Mm-hmm. Vraiment, les enfants doivent être sécurisés. Plusieurs stades des niveaux de l'évolution. C'est-à-dire l'enfant, au cours de sa socialisation, passe à des étapes. Évidemment, au niveau de la socialisation primaire, et la famille intervient, l'école est là, comme il vient de récemment le dire, la rue est là. Alors, à ces différents niveaux de stade de socialisation, l'enfant doit être suivi. La famille, en tant qu'actrice principale pour le suivi de l'enfant à tous ses mouvements. Alors, l'école y est là, c'est encadré même si c'est par un programme social, quand même, l'enfant est en interaction avec ses voisins. Au cours des vacances, comme on le dit, même s'ils ne sont pas à la maison, encore moins à l'école, ils se retrouvent dans un lieu public. Ils méritent d'être suivis constamment. À travers certaines interactions sociales, ils peuvent se sortir d'un cadre. Parce que nous sommes là, ça c'est notre groupe, nous faisons ce que nous faisons en termes de distraction. Un autre groupe y est là. Donc, si l'enfant n'est pas suivi, donc avec l'émotion, il peut sortir de ce cadre, aller dans un autre cadre. Donc, à travers ça, l'enfant peut se perdre.
Alors, parlons de l'évolution démographique qui est galopante dans nos grandes villes. Comment alors protéger les enfants et s'assurer qu'ils ne soient jamais portés disparus dans cette situation?
Oui, nous avons une démographie galopante. Qu'à cela ne tienne, comme le dit un sociologue, quels qu'en soient les problèmes sociaux, quels qu'en soient les anomalies sociales, l'être humain a toujours des solutions par rapport à une situation sociale. Alors, ce n'est pas parce que nous avons une démographie galopante qu'on doit laisser les enfants par où partir sans les suivre. Il faut vraiment multiplier les efforts sociaux pour pouvoir suivre les enfants. Avant, comment ils étaient? Si, par exemple, nous étions dans une famille élargie ou grande famille, donc il y avait quand même des personnes qui s'occupaient spécifiquement de ces enfants, que ce soit à l'intérieur de la famille, dans les rues ou à l'autre lieu social. Est-ce que vous voyez? Donc, ils devaient être suivis. Maintenant, au bout de 3 à 4 ans, ils se retrouvent à 10 ou à 20. Est-ce que la seule personne pourrait les suivre? Non, il faut
difficile.
C'est difficile. Donc, il faut vraiment multiplier les efforts. La manière dont les choses changent, il faut changer également notre stratégie.
Alors, de la manière dont les choses évoluent, il faut évoluer avec.
Voilà.
Et que pensez-vous des nouvelles techniques utilisées maintenant dans la recherche des enfants portés disparus?
Malgré l'évolution des sociétés humaines en termes de rapports sociaux, les techniques anciennes également demeurent importantes. Alors, maintenant, voyons un peu les nouvelles techniques de recherche, que ce soit les médias sociaux ou bien les antennes, la radio ou la télévision. Avec la densité des personnes, l'ancienne technique seule ne pourra pas résoudre rapidement. Vous voyez les réseaux sociaux, par exemple, que ce soit Facebook, TikTok. Quand vous balancez une information, au bout de quelques secondes, ça se propage instantanément. Idem pour les radios, il y a des gens qui écoutent les radios 24 sur 24. Donc, pour vraiment renforcer l'ancienne technique, il est fondamental, nécessaire, quand même, que cette nouvelle technique de recherche s'ajoute aux anciennes. Vu la démographie galopante.
Alors, pour finir, que conseillez-vous aux parents et surtout aux jeunes parents?
Par rapport à la disparition des enfants qui sont l'avenir du pays, alors, il faut vraiment beaucoup de sincérité. Un enfant n'est pas un objet. Donc, l'enfant mérite protection. Les parents doivent veiller vraiment au suivi strict des enfants. Un enfant ne doit pas sortir quand il veut, ne doit pas collaborer avec qui il veut. Donc, il faut vraiment tout ce que nous faisons dans un cadre social qui réponde aux normes de nos sociétés sur lesquelles nous vivons.
Merci. Nous vous rappelons que vous suivez Studio Tamani sur les antennes de nos radios partenaires à travers le pays et sur nos différentes plateformes. Draman.
Lala, merci aussi à notre invité qui a fait ce déplacement pour parler de ce sujet important. Et merci à nos auditeurs et auditrices un peu partout à travers le pays et même au-delà de nos frontières. Lala, nous allons essayer de souffler un peu en musique.
Ça ne fait jamais de mal. Nous allons à Kita, comme annoncé dans les titres. Aujourd'hui, c'est une découverte que nous faisons dans notre rubrique « Artistes invités ».
Et oui, il s'agit d'une jeune griotte, fille de deux artistes connus Lala.
Ah oui, il s'agit de qui? Qui sont ses parents?
Nous sommes avec Django Diabaté, fille de Feu Fimani Diabaté et de Makuyate Nimirodé, paix à leur âme. Suivons ensemble nos quelques minutes d'échange.
Béni Danyale, Béni Danyale. Nedunda ya kele jeliya baledi alabolo netebandanya.
Bonsoir Django. Il paraît que toutes les personnes qui portent le nom Django viennent de Kita. Vous êtes de quel quartier de la dite ville?
Nos grands-parents étaient à Djatala avant de s'installer dans la ville de Kita, précisément à Moribougou.
C'est la musique qui vous a fait déplacer de Kita à Bamako?
Ce n'est pas seulement ma vie d'artiste qui m'a conduit dans la capitale, car mon papa était à Bamako.
Nous allons déduire que vous avez hérité ce tard.
Effectivement.
Alors, comment se passe la vie d'artiste?
Bon.
Ce domaine n'est pas facile. Pour le moment, je ne traverse que des difficultés.
Quand est-ce que tu as commencé à chanter?
Un peu longtemps. Après le décès de mon père, j'ai un oncle qui m'a encouragé à chanter. Je n'avais pas encore l'intention d'évoluer dans le monde musical. Après, j'ai participé à des semaines régionales à Kai. Nous avons organisé des concerts à Kita, dans lesquels Babani a participé.
Vous êtes au studio, alors quels sont les projets?
Je suis au studio, oui, et j'ai déjà un single. Mais le financement et les appuis qui manquent rendent la tâche difficile.
Nous allons croiser les doigts pour que ça aille mieux. Par ailleurs, quelles sont vos ambitions dans le domaine artistique au Mali?
Je souhaite suivre les pas de mon papa Fimani et de ma mère Makouyaté numéro 2, paix à leur âme, car ils font partie de l'histoire de la musique malienne. Ma maman a chanté la paix, la cohésion sociale. Ils sont mes références. Je souhaite avoir le même succès
qu'eux.
Paix à leur âme, qu'Allah facilite et plein de succès à vous. Le pays traverse une crise depuis un moment, une situation qui a fait des personnes déplacées. À celle-ci s'ajoutent les sinistrés. Un message à leur endroit.
Je prie Dieu pour qu'il mette fin à cette crise au Mali. Aux personnes touchées par cette crise, qu'elles patientent. Ça finira bientôt, s'il plaît à Dieu. Qu'Allah fasse du Mali le Maliba pour toujours. Que la crise sécuritaire prenne fin et que le bonheur, la cohésion sociale reviennent dans notre pays.
Alibi. Kassabali di Malima. Et fitinembe malikono. Alaka noya. Kanani beni keliai. Kanani hera badimbai. Asibi aladi.
Alao, alao, alaninje. Me bari kabila alaye. Kabarika bila wolo fani wolo na lube me barika bila sizo tamani jama be ala min sona kabira nini kanubaga lubela awa ala ni chelongolo sijani kene ani laba kwa nyuma me ala lebolo ala basio ko chamana ala kono yande ni kanubaga luye afa amina ya rabbi diye danya veni danya.
Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
Inch'Allah.
Eh oui, très belle rencontre à Kita, Drawan.
Ah oui, j'ai failli donner tous mes billets que j'avais en poche. Hein. J'étais face à une griotte qui a la voix, qui a la belle voix.
Ça, c'est vrai. C'est vrai que souvent, on est, voilà, quand on est face à des cantatrices de ce calibre-là, souvent, c'est difficile de se retenir.
Ah oui.
Mais j'espère que tu n'as pas donné...
Non, non, non. Le reste est là.
Okay. Donc, ça va. C'était vraiment intéressant. Et voilà, elle a de bonnes idées, surtout. Elle parle des difficultés de la vie. C'est, on va dire, c'est le quotidien de tout un chacun. Ah oui, mais...
C'est clair, c'est clair. Ouais, on traverse tous des moments difficiles, souvent. Et c'est la persévérance qui fait qu'on peut, peut changer ces aspects.
Absolument.
Et alors, nous avons notre invité aussi qui...
Qui va donner son avis.
Ah oui, certainement, parce qu'en écoutant la musique, on dirait qu'il était... il a un peu aimé, je crois.
Alors, M. Guinaud, comment vous avez trouvé la rubrique artiste invité de la semaine?
Oui, je l'ai trouvé, c'est intéressant. Et comme vous l'avez dit, et les difficultés auxquelles nous faisons face, ça fait partie de la vie. Donc, aucune vie n'est harmonieuse comme nous le souhaitons. Donc, il faut gravir les échelons. Donc, d'une étape difficile à une autre, vous voyez. Non
moins
voilà.
Difficile.
Voilà, moins difficile.
Et on dit surtout que les difficultés ne finissent jamais.
Et tant que la vie continue.
Oui.
Les sociologues, c'est ce que vous dites?
Bon, même si on ne le dit pas, c'est l'arrêté social. Ah, donc, tant qu'on vit, les moments qu'on ne souhaite pas arriveront.
Ah, moi, quand même, je n'aime pas les difficultés. Mais,
Et pourtant, tu es très résilient.
D'accord.
Les difficultés dans cette vie, c'est comme la terre et le ciel. Okay. C'est comme le chaud et le froid. Okay. C'est comme la nuit et le jour. Tu vois? Donc,
ouais,
on ne peut pas dissocier, en fait.
On ne peut pas les dissocier.
Quelle que soit l'étape dans laquelle tu te trouves, tu vas rencontrer des difficultés. Et plus tu montes en grade, plus tu rencontres d'autres difficultés de même taille qui correspondent dans l'état où tu te trouves.
Et ce sont ces difficultés qui feront le succès de demain.
Les Chinois diront c'est les yin et les yang.
Ah, moi, je ne savais pas que tu comprenais mandarin aussi. Alors, Lala, nous allons vers notre rubrique de la fin.
Oui. Le proverbe de la semaine.
Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. C'est le proverbe de la semaine.
Il est expliqué ici par Ama Asifa Fofana, un traditionnaliste à Diré, dans la région de Tombouctou. Le notable est au micro de notre correspondant sur place, Amé Traoré.
Un proverbe africain dit « pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village ».
Il s'agit de dire que pour qu'un enfant soit éduqué, il faut tout un village. Voilà le vrai sens. Et ce sens veut dire quoi? C'est que pour qu'un enfant soit vraiment éduqué, c'est pas par ses parents directs. Il faut que chacun y mette son sien. Et avant, aujourd'hui, c'est réellement toute la communauté qui éduque un enfant. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Avant, si tu trouves un enfant d'autrui faire du mal ou quelque chose de mauvais, tu es obligé d'intervenir. Tu es obligé d'intervenir. C'est la loi de la communauté. Si tu frappes cet enfant, l'enfant ne peut pas pleurer pour aller chez lui parce que, dans ce cas, il est obligé de s'expliquer pour dire que c'est telle personne qui m'a frappé. Et on sait qu'avant, les parents ne frappent pas un enfant comme ça. Quand ils le frappent, c'est pour une cause bien déterminée. Et la correction que tu vas recevoir chez toi, ce serait plus dur que le père d'autrui qui t'a frappé. Donc, en ce moment, et ce proverbe a son sens, mais aujourd'hui c'est un peu compliqué. Si tu touches à l'enfant d'autrui, tu peux même te retrouver devant le juge, rien que pour l'éducation. Donc, c'est pour cela qu'on a envoyé ce proverbe qui dit « pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village ». En réalité, il ne s'agit pas de grandir par la taille, il s'agit de l'éducation. Pour qu'un enfant soit éduqué, forcément, il faut toute la communauté.
Notre invité a certainement quelque chose à dire par rapport à ce proverbe.
Oui, effectivement, comme l'intervenant, donc il ne s'agit pas de grandir en taille. C'est-à-dire, c'est le passage d'une société mécanique à une société organique dans laquelle nous sommes. Donc autrefois, l'éducation se passait ainsi. Et le fruit de cette éducation était meilleur. Est-ce que vous voyez? Donc l'enfant, à la naissance, on dit telle femme a accouché. À un certain niveau, on dit l'enfant de tel monsieur. Au bout de tel, à tel niveau, on dit l'enfant de telle famille, de tel village, de telle région, de tel district ou de pays, voilà, de l'Afrique, ainsi de suite. Donc, c'est l'ensemble de des éducations qui faisaient l'enfant voulu par la société ou par les hommes eux-mêmes.
Draman, on va se dire déjà au revoir.
Déjà,
oui.
Pas de commentaires sur ce proverbe magique.
Je dirais que la société, comme le sociologue l'a dit, c'est difficile de prendre la parole après un sociologue.
Ah oui.
Oui, l'enfant, en fait, c'est le fruit de l'éducation collective, on va dire. Tu peux mettre au monde un enfant, mais l'enfant va recevoir l'éducation de différentes manières. Il l'a dit, il y a l'éducation primaire, ça c'est en famille. Mais il arrivera un moment où l'enfant apprend à marcher, il va sortir forcément. Donc il faudra que ceux-là qu'il rencontre dans la rue puissent également contribuer à son éducation, à sa bonne éducation. Donc si tu es maman poule, tu dis non, que personne ne lorgne mon enfant, que personne ne le tape, franchement, ce qu'il fera dehors va t'échapper forcément. Et c'est ce qui fait que certains parents sont vraiment surpris de voir que les enfants ont de mauvaises fréquentations, consomment des produits pas très licites. C'est un peu ça, en fait. Pour éviter les surprises désagréables, il faut mettre en commun les efforts, il faut mutualiser les efforts et ainsi drainer les enfants comme ça se doit.
D'accord, après ces mots, quand même, je peux dire, je suis d'accord. On peut refermer cette émission.
D'accord, donc ainsi se referment les portes de l'émission Fabou Diren de ce dimanche, présentée par moi, Lala Diarra Touré et Draman Maïga. Si vous venez de prendre le train en marche, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez désormais cette production et tant d'autres sur notre site www.studiotamani.org.
Certaines de nos productions aussi sont disponibles sur notre groupe WhatsApp. Pour y accéder, enregistrez le numéro suivant 75 99 76 19. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre site web ou notre page Facebook et cliquer sur l'icône WhatsApp.
Nous ne pouvons pas vous remercier assez pour votre constante fidélité. Ne décrochez pas, car tout de suite, la version en langue nationale, Bamanankan.